Voilà, nous sommes au premier jour de notre séminaire intitulé « Dieu et les dieux ». Dieu avec grand D et puis les dieux avec petit dieu, avec petit D. Et le but, c'est toujours d'aller loin avec le Seigneur dans la connaissance de sa parole. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et souvent, on sait... poser la question suivante. Mais une personne a su, en venant au Seigneur, arrêter avec la cigarette, arrêter avec le vol, arrêter avec le concubinage, arrêter avec le mensonge. Mais 6 ans, 5 ans plus tard, nous voyons la personne replonger dans ça et vivre dans ça. Et souvent, on s'est dit, il n'était pas bien converti, il n'était pas totalement converti. Et puis d'autres vont poser la question, mais comment se fait-il qu'il a pu arrêter le vol, le mensonge, la cigarette, s'il n'était pas bien converti? Ça a toujours fait un sujet à débat au milieu des chrétiens. Parce que quand on se souvient de la personne, la façon dont elle priait, la façon dont elle chantait, la manière dont elle a pu... arrêter certains péchés. On se dit, mais quand même, elle était convertie, la personne. Et toujours dans cette quête d'explication et de profondeur, le Seigneur nous donne l'explication, c'est que le Seigneur doit régner dans la vie d'une personne. Lorsque le Seigneur ne règne pas dans la vie d'une personne, c'est comme quelqu'un qui est guéri par des pommades d'une maladie de peau, il va mettre des pommades, certaines lotions, et va connaître 6 mois, 4 mois de guérison, et puis 8 mois après, ça revient. Et un jour, il va consulter un médecin beaucoup plus qualifié qui va lui donner certains comprimés qui sont censés agir dans le sang. Et vous allez voir que cette personne va être guérie définitivement, parce qu'on a atteint la source du problème de la peau a été touchée. Donc il faut aller à la source. Il faut aller à la source. Si on ne va pas à la source, le problème va continuer. Et ce thème est censé nous ramener à la source du problème. Le problème dans l'humanité, dans l'univers, c'est un conflit entre Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui est la source de tout, et ces créatures qui veulent prendre sa place, refuser sa toute-puissance, son règne sur leur vie. C'est ça la source du problème. On peut pendant un temps sembler à s'approcher de Dieu, faire des choses, mais lorsque on n'a pas encore accepté Dieu comme chef de notre vie, il y aura un jour ou l'autre un retour en arrière. Un jour ou l'autre. Dieu doit régner dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dans la vie de tous ceux qui prétendent s'approcher de lui, il doit être le chef, il doit régner. Il doit être Dieu. Il ne peut pas y avoir deux dieux. Nous allons lire cela. Lui-même dit, il n'y a qu'un seul Dieu, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a maintenant plusieurs dieux. Et nous allons voir l'origine de tout ça et en arriver à la solution suivante, si nous voulons progresser, si nous voulons être heureux, reconnaissons qu'il y a un seul Dieu et soumettons-nous à ce Dieu-là, le Père de Jésus-Christ. Alors, premièrement, nous lisons dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Parce que Dieu existe tout temps, mais il a fait des créatures. Il a créé des êtres et en premier lieu, les anges. Et parmi ces anges, il y a un qu'on appelait astre brillant, Lucifer, qui s'est rebellé contre Dieu. L'histoire nous est contée dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, il est écrit ceci à partir du verset 11. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. » Vous allez vous rendre compte que quand nous allons lire Ésaïe, il va parler encore du roi de Tyr toujours. Donc c'est des textes qui sont semblables, qui parlent de la même personne, parce que la personne dont il est question ici, on semble parler d'un homme, mais en réalité, quand on lit, on se rend compte que ce n'est pas d'un homme qu'il s'agit. « Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Or, nous savons que le roi de Tyr, Tyr c'est une ville du Liban, Tyr, Sidon. Alors, le roi de Tyr n'a jamais été en Éden, au jardin d'Éden de Dieu. Au jardin d'Éden, c'était Adam et Ève, ce n'était pas le roi de Tyr. Alors, donc, ça ne pouvait pas être le roi de Tyr physique, mais c'est une autre personne, un ange. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Donc un chérubin, c'est un ange. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Or, le roi de Tyr, c'est un homme, il n'a pas des ailes. Mais là, on parle d'un être qui a des ailes. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Voilà ce que ce texte nous montre concernant la première rébellion qui fut celle de Satan. Satan s'appelait à l'époque Lucifer et avait un éclat extraordinaire, une beauté extraordinaire. Et c'est cette beauté et cet éclat et les faveurs que Dieu lui avait faites, entre autres, susciter des tambourins, des flûtes le jour de sa création, toutes ces faveurs-là ont fait qu'il s'est cru l'égal ou sinon supérieur à Dieu lui-même. En tout cas, il a voulu l'être. C'est ainsi que Dieu l'a précipité. Donc, on a une première explication de la rébellion d'origine. C'est la rébellion du diable. Donc, il s'agit bien de lui parce que là, ce n'est pas un homme qui va avoir les ailes déployées, marcher sur des pierres étincelantes et tout ça être dans le jardin de Dieu. C'est bien un ange. Nous lisons aussi Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Il est écrit ceci. À partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Là où c'est écrit astre brillant, à l'origine, c'est Lucifer. Donc, c'est ça que ça veut dire. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchant point ses prisonniers? Donc il est question d'un astre brillant. Te voilà tombé du ciel. Donc ce n'est pas un homme puisque les hommes ne sont pas au ciel, ils sont sur la terre. Là c'est écrit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de lumière, Lucifer. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc cela nous est relaté une fois de plus, le but originel de la rébellion de Satan, c'est placé au-dessus des étoiles de Dieu, donc au-dessus de Dieu lui-même. Et il a entraîné d'autres anges. C'est ça la première rébellion. Il y avait Dieu qui existait, source de tout, créateur de tout, mais ces créatures ont voulu prendre sa place parce qu'il les a créées avec gloire et puissance. Ils avaient une puissance et une gloire. Et elles ont voulu, ces créatures, se mesurer à Dieu lui-même, et elles avaient pour chef Lucifer, fils de lumière, l'astre brillant, celui qui avait un éclat exceptionnel, une beauté exceptionnelle. C'est ainsi que nous assistons au premier jugement. Il a été jugé, Lucifer, et il a été précipité, dégagé du ciel à cause de cette tentative de coup d'État, de rébellion. C'est l'ingratitude même, c'est la méchanceté, parce que la personne qui t'a créé, tu veux prendre sa place. C'est la jalousie à l'extrême, c'est l'orgueil à l'extrême. Parce que l'orgueil, quand il n'est pas encore à l'extrême, il nous permet de réfléchir, de se dire, mais tiens, s'il m'a créé, c'est qu'il est plus fort que moi, je ne peux pas lutter contre lui. Mais quand l'orgueil est à l'extrême, donc on se croit capable de tout. On se croit capable de défier des gens même plus forts que soi parce que nous ne réfléchissons plus. L'orgueil nous a aveuglés, nous a rendus fous. Et c'est ce qui s'est passé pour Satan. L'orgueil l'a rendu fou. Et il s'est cru être plus fort que Dieu à cause de son éclat à lui, de sa beauté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Parce qu'au fait, leur regard n'est tourné que vers eux-mêmes. Quand ils se regardent, oh, je suis beau, oh, je suis fort, oh, je suis intelligent. Et à partir de là, leurs yeux sont aveuglés sur le reste. Et ils finissent par devenir fous et se prétendre Dieu. Et jusqu'au jour où ils sont laminés, comme Hitler a été laminé un jour, et beaucoup d'autres encore. C'est ainsi que Satan se rebelle contre Dieu. Et nous lisons le texte de la deuxième rébellion. Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui est écrit? Genèse au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà la deuxième rébellion. Dieu crée maintenant l'homme à son image. à son image. Quelle bonté, quelle bienveillance, créer l'homme à sa propre image, lui Dieu. Il a pris le risque que l'homme étant créé à son image, cherche à le rivaliser. Mais bien aimé, quand tu as tout donné à quelqu'un, tu lui as donné des parcelles, tu lui as donné des voitures, tu lui as tout donné, tu lui demandes de ne juste pas toucher à une case, à une vieille case, au coin du jardin. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on peut penser que cette personne ira toucher à cette vieille case alors qu'il a des châteaux, il a des chevaux, il a des écuries, il a des voitures comme il veut? Mais l'homme a été tenté parce qu'on lui a donné, tenté de toucher à la case en quelque sorte, de manger du fruit, parce qu'on lui a promis qu'il sera l'égal de Dieu. Donc il sera comme Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu se faire lui-même Dieu. Parce que quand tu deviens l'égal de Dieu, tu te fais Dieu toi-même. Satan a voulu faire aussi pareil, devenir Dieu lui-même, prendre la place de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui on parle de grands dieux et de petits dieux, parce que normalement on n'aurait même pas dû parler de ça. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais à cause de ces rébellions-là, aujourd'hui on commence à parler de Dieu avec des minuscules. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu prendre cette place-là. Parce qu'ils détenaient une certaine puissance, une certaine autorité, un certain éclat. Et c'est ça la source de tout. Si nous voulons comprendre le mécanisme qu'il y a dans l'humanité, c'est ça l'explication. Dans le livre de Genèse, il y a l'explication pour tout ce qui se passe ici sur Terre. En réalité, le problème de chacun d'entre nous, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu et que nous devons nous soumettre à lui. Vous allez vous rendre compte qu'en lisant Genèse, même juste le premier chapitre, le premier péché, c'est le fait d'avoir refusé l'autorité divine, la totale autorité divine. Le vol, le mensonge, l'impudicité, tout ça est venu après. Tout ça est la conséquence de la maladie que le péché a apportée. Mais en réalité, si aujourd'hui nous voyons les gens aller en enfer, l'impudicité, le vol, tout ça est secondaire. Tout ça est la preuve qu'ils ont le vrai péché, qui est la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et donc, si nous ne voulons pas être de ceux qui allons apparemment avancer en triomphant de la cigarette, en triomphant du mensonge, de l'impudicité, et puis revenir encore, retomber dans le péché, nous devons accepter le règne de Dieu dans nos vies. Nous devons accepter que Dieu soit le chef. Nous devons accepter que sa parole, la Bible, soit le chef. Nous devons être là, comme les anciens serviteurs de Dieu, dire « Me voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. » Comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est le Seigneur qui doit parler pour toi et non toi-même décider quelque chose et demander au Seigneur de donner les moyens pour cela. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup sont devenus de Dieu pour eux-mêmes. C'est leurs projets qui sont devenus de Dieu. Malheureusement, cela crée toujours des maladies, des conflits, des chutes dans le péché, de l'improductivité par rapport aux fruits du Saint-Esprit, parce que les gens ne veulent pas céder devant Dieu. Ils ne veulent pas capituler. Donc, bien-aimés, acceptons le règne de Dieu dans nos vies. Et Satan et Adam n'ont pas accepté ça. Et nous voyons les conséquences jusqu'aujourd'hui dans l'humanité. Mais malgré cet échec, ils ont voulu continuer encore à faire quelque chose pour s'opposer à Dieu. Parce que quand Satan a été précipité, l'homme a été aussi chassé du jardin d'Éden. L'homme s'est rendu compte de ses limitations. Il s'est rendu compte de ses limitations. Il fallait maintenant travailler pour manger. Il pouvait se fatiguer maintenant. Toutes ces limitations, au lieu de l'amener à s'humilier devant Dieu, l'ont amené à chercher à être toujours autonome, puissant vis-à-vis de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'homme ? Il s'est réuni avec les autres humains. Comme de lui-même tout seul, il n'a pas pu rivaliser contre Dieu. Il s'est dit, je vais me mettre avec d'autres humains. C'est ça l'histoire de la tour de Babel. Genèse 11. Il est écrit dans Genèse 11, à partir du verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, c'est-à-dire la région de Babylone, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, c'est-à-dire confusion, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que l'homme, seul face à Dieu, il a échoué. Le diable, face à Dieu, il a échoué. Malgré la réunion des mauvais esprits avec lui, il a réuni d'autres anges avec lui pour combattre Dieu. Il a échoué. Maintenant, l'homme va faire la même chose que le diable avait fait, réunir d'autres humains. Donc, ils se sont rassemblés, toute l'humanité de l'époque, en disant, nous devons nous faire un nom. Qu'est-ce que ça veut dire se faire un nom ? Se faire une identité. Alors qu'ils avaient déjà une identité, c'était des humains. Il y avait déjà un Dieu qui existait. Non, ils veulent se faire une identité qui arrive au niveau de Dieu, jusqu'au ciel. Alors ils se sont mis ensemble. Ils ont cherché la force dans le nombre. Un jour, nous avons fait une étude biblique sur le nombre. On avait expliqué que le nombre peut être un Dieu. Parce que l'homme se sent fort quand il est avec le nombre. Alors, ils ont fait du nombre. Et à partir du nombre, ils ont voulu construire quelque chose pour rivaliser avec Dieu. Retenez ces détails, c'est très important parce que ce début-là sera la fin aussi. Dans Ecclésias, il est dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. La méthode du début, ça sera la méthode de la fin aussi. Parce que c'est ça la source de tout. Ce qu'on vient d'être en train de lire. Qu'est-ce qui conduit l'homme au péché ? C'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. Nous, c'est vrai que le péché attire et que notre être est faible vis-à-vis du péché. Cependant, quiconque se confie à Dieu pour dire « Dieu, viens diriger ma vie, viens régner », se retrouvera vainqueur du péché. Donc ce n'est pas les choses de la terre qui perdent vraiment les hommes, c'est leur rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est le fait qu'ils refusent que Dieu soit leur chef. C'est tout. C'est ce qui explique la chute de beaucoup qui sont dans les églises. C'est ce qui explique que beaucoup rétrogradent et retournent dans le monde parce qu'ils n'ont pas accepté Dieu comme chef. C'est ce qui explique que, vous allez voir, il y a des gens, on va faire 15 ans, 20 ans ensemble, un jour vous apprenez qu'ils commencent à fêter le sabbat à nouveau. Oui, mais comment on est arrivé à les convaincre ? Parce que Dieu n'était pas leur chef. En fait, c'est des gens qui piochent à gauche, à droite, sur Internet, pour lire des textes, pour grandir par eux-mêmes. Ils n'ont pas Dieu comme conducteur, comme berger. Et ils font les choses par eux-mêmes. Ils finiront par se faire trompé par une fausse doctrine. Il faut que Dieu soit notre chef. Et là, on disait, Dieu a vu qu'ils ont voulu rivaliser avec lui. Par le nombre, il les a divisés. Ainsi, cette division a produit plusieurs peuples à travers le monde. Et vous remarquerez que dans Genèse, on ne parle pas encore des faux dieux. On ne parle pas encore des dieux de peuple. On parle juste de l'homme face à Dieu, de Satan et Dieu, de l'homme face à Dieu, et de tout un peuple, donc la tour de Babel face à Dieu, et puis de plusieurs peuples. Après, on va parler de plusieurs peuples, mais il n'y a pas encore une question d'adorer un dieu. Parce que le peuple en lui-même était comme une force, comme un dieu, comme une... La nation était comme Dieu. Voilà, donc les peuples s'attachaient à eux-mêmes. Donc l'homme est passé du stade de l'individu face à Dieu au stade d'un peuple contre Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur va susciter un peuple aussi. Vous voyez la différence? Vous voyez la similitude? Puisque l'homme ne fonctionne plus individuellement, il fonctionne en peuple, Dieu va susciter aussi un peuple pour l'utiliser afin de parler aux autres peuples. Puisque l'homme ne pouvait pas parler par lui-même individuellement. Les gens n'avaient pas cette liberté-là. Parce que vous savez que le progrès technologique, c'est ça qui nous a donné l'individualisme qu'on vit aujourd'hui. Parce que autrefois, les aléas de la nature, les difficultés de protection étaient telles que l'homme seul ne pouvait pas s'en sortir. Il fallait toujours qu'il se regroupe. Pour bien comprendre ça, il faut connaître l'histoire des États-Unis. Quand ils se sont établis, on va mieux comprendre comment l'humanité aussi a fonctionné. Puisque vous arrivez dans un pays, il n'y a pas de police, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de juge. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous réunissez. C'est vous-même, en réunion, vous votez qui va être le juge, qui va être le qui va dormir, qui vont faire la garde la nuit. C'est-à-dire, c'est en groupe qu'ils réfléchissaient. Quand ils arrivaient dans une région, c'est en groupe qu'ils réfléchissaient, toujours en groupe. Parce que seul, tu es face aux bandits, face aux animaux sauvages, tu ne peux rien. Donc, il fallait une force d'ensemble. Et c'est comme ça que l'homme est passé de la logique individuelle vis-à-vis de Dieu à une logique de peuple. Donc quand ils ont été dispersés après l'épisode de la tour de Babel, ils se sont constitués de peuples avec une force de peuple, avec une identité. Parce que souvenez-vous, ils avaient dit, nous allons faire un seul peuple et nous allons nous donner un nom, une identité. Cette identité-là devenait quelque chose de fort, de Dieu. C'est devenu comme une sorte de Dieu. Rappelons, parce que là, maintenant, on est obligé de définir ça. Mais à l'origine, on n'avait même pas à définir qui est Dieu, puisqu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais aujourd'hui, on est obligé de définir. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est tout personnage qui est grand et éblouissant. Un personnage grand et éblouissant. Quelque chose qui nous épate. C'est aussi quelque chose dont on dépend pour notre survie, notre vie, pour notre vécu. Ça peut être donc une forme de Dieu aussi. Et en général, c'est Dieu-là avec petit d. Bon, on les adore, on les loue, et puis on leur prête des pouvoirs qui dépassent le pouvoir des humains. Voilà un peu ce qu'on peut dire quand on parle de Dieu. Donc le groupe est devenu comme Dieu parce que la protection vient du groupe. La vie de tous les jours, c'est grâce au groupe. Le groupe est devenu ta force. Et donc, ça devient comme une sorte de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu a suscité un nouveau peuple pour pouvoir corriger les autres peuples. Parce que l'homme commençait à réfléchir en peuple. Il n'y avait pas encore l'histoire des statues, des Molochs, d'Astarté. Il n'y avait pas encore des noms de dieux en statues, en montagnes, tout ce que vous voulez. C'était les peuples qui étaient des forces en eux-mêmes. Lisez Genèse, vous n'allez pas voir le nom de Dieu. Mais vous allez voir des peuples. Et même dans Exode, pareil, les histoires des divinités commencent à sortir dans Deutéronome, ou dans Nombre, Deutéronome, où Dieu dit, ben, vous allez voir, je ne veux pas que vous imitiez les abominations de peuple parce que ces gens-là font des abominations, n'imitez pas ça. Donc je les chasse d'ailleurs pour les corriger. C'est ainsi que beaucoup qui sont troublés par les guerres de l'Ancien Testament peuvent les comprendre. Ces guerres-là étaient là pour amener les gens à reconnaître qui est le véritable Dieu. Parce que les gens avaient pour Dieu leur peuple. Ils en ont fait une identité, comme on a dit au début. Donc chaque peuple s'est fait un nom. Ce nom-là devenait le nom de son Dieu. Donc le peuple arabe, le peuple ceci, le peuple celte. Donc chaque peuple faisait de son identité une forme de chose intouchable, une chose élevée. C'est ce qui explique même le tribalisme, c'est ce qui explique le nationalisme, c'est ce qui explique le chauvinisme. Voilà, tout ça est dû au fait que les peuples deviennent une sorte de Dieu, le nom du peuple. Et là, Dieu suscite lui aussi son peuple à lui, puisque Dieu voulait parler le langage que l'homme pouvait comprendre, puisque l'homme était dans le langage du peuple. Dieu voulut parler ce langage-là. Je veux vous montrer le vrai peuple, le peuple qui est issu de moi. Et c'est par ce peuple-là que vous pouvez revenir à moi. Parce que comprenons que dès la chute d'Adam, Dieu a voulu sauver l'homme. Pour sauver l'homme, il devait se révéler à l'homme. Mais comme on en est arrivé, malgré le déluge, l'homme ne s'est toujours pas humilié. Dieu maintenant utilise son peuple Israël. Donc Israël, remarquez que dès le départ, Dieu a fait voyager Israël, et sur le chemin d'Israël pour arriver à la terre promise, il fallait faire des guerres. Même dans la terre promise, il y avait des gens. Ce n'était pas vide. Il y avait des gens. Il fallait faire la guerre. Et à travers toutes ces guerres, il fallait que les autres peuples réalisent que le véritable Dieu, ce n'est pas le Dieu de leur peuple, c'est le Dieu d'Israël. Parce qu'Israël était en petit nombre. Israël était pas bien armé. Parce qu'un peuple qui vit dans les tentes, qui est nomade, quand est-ce qu'il a le temps de concevoir tout ce qui est bronze, métal? Ça demande de l'espace, ça demande de la stabilité. Faire des armes, ça demande une bonne assise. Et le peuple d'Israël n'était pas bien armé et il était peu nombreux. Mais sur son chemin, obligé d'avoir des victoires exceptionnelles. On connaît la fameuse victoire face à Amalek dans Exode 17, lorsque Moïse levait les mains. Et il a été aidé par Aaron et Hur. Tout cela servait à dire aux autres peuples, vos dieux ne sont pas des dieux, c'est des faux dieux. Le véritable Dieu, voilà celui qui donne la victoire à un petit peuple, non armé pratiquement. Mais c'est ce Dieu-là que toute l'humanité doit suivre. Nous nous souvenons qu'un de ces dimanches, nous avions parlé du fait que le salut était près de tout homme. Cette histoire nous montre que Dieu a approché tous les peuples par Israël à travers ces guerres. Mais il y avait des peuples qui reconnaissaient. Les Gabaonites ont dit, nous, on ne veut pas faire la guerre, on a appris ce que Dieu a fait à travers Israël. Le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Voilà, il y avait des peuples comme ça qui étaient saisis d'humilité et s'humiliaient pour dire, nous, on ne fait pas la guerre, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est qu'on reconnaisse que c'est lui qui est Dieu. Je ne suis pas en train de négliger le péché. Je suis en train de dire que la solution de tout, c'est reconnaître que Dieu est Dieu et que lui seul est Dieu. Et que nous nous soumettions à lui. Voilà. Les jeux dans notre langage, je, les réflexions personnelles doivent diminuer pour laisser la place à la pensée de Dieu. C'est ça, quand quelqu'un règne dans ta vie, c'est ça qui se passe. Comme le serviteur qui est chargé de tous les besoins du roi, ce n'est pas sa pensée qui compte. Il observe le roi. Ah, il y a un peu de sueur sur le front. Il donne le mouchoir. Il observe le roi. Ce n'est pas sa réflexion qui compte. Ce n'est pas lui qui a fait un programme. Bon, à 11 heures, le roi prendra ceci. Non, il observe le roi. Il le connaît et il l'observe. En fonction de ce que le roi veut, lui, il fait. Bon, bien sûr, il y a toujours eu des serviteurs qui ont voulu faire des rois à leurs serviteurs et ça a fini toujours mal. Israël a été utilisé par Dieu et je vous conseille de relire la Bible. Vous allez vous rendre compte que toutes les grandes puissances de l'époque ont eu des problèmes avec Israël. Vous connaissez l'histoire de la statue de Daniel, du rêve de Daniel. Cette statue qui expliquait que le règne commençait par Nebuchadnezzar dans l'univers, dans le monde plutôt, sur la terre, par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ensuite, c'était les Mèdes et les Perses. Ensuite, c'était les Grecs. Et puis, les Romains, l'Empire romain. C'est les quatre puissances, puisque l'Empire romain continue aujourd'hui à travers l'Occident. C'est les quatre puissances qui vont gérer l'humanité du début à la fin. Les quatre grandes puissances, les quatre empires planétaires, empires mondiaux. Premièrement, Babylone. Mais vous vous souvenez que Babylone a eu affaire avec Israël. Il y a eu guerre. Israël a perdu la guerre. Et ils ont été déportés à Babylone. Et à Babylone, vous connaissez l'histoire de Daniel. Comment Daniel et ses amis ont confondu le roi de Babylone, l'ont obligé à se soumettre au Dieu vivant. Donc Dieu a été au contact de toutes les nations par Israël. Après Babylone, il y a les Mèdes et les Perses. Vous connaissez l'histoire de Néhémie, qui était les chansons du roi. Mais de quel roi il s'agissait? De Cyrus, le roi des Perses. Et à partir de Néhémie, Cyrus a connu qui était l'Éternel, à tel point que Dieu, dans les Écritures, il appelle Cyrus son serviteur, lui qui était le roi des Mèdes. Donc Cyrus a reconnu que Dieu était grand et il a signé un décret autorisant Néhémie à retourner à Jérusalem pour reconstruire les murailles avec l'argent, les moyens qu'il fallait. Il lui a tout donné. Donc Cyrus s'est incliné, lui qui était le roi des Perses, le roi de la puissance mondiale de l'époque, il s'est incliné devant Dieu. Ensuite, il y a les Grecs avec Alexandre le Grand et ses successeurs qui sont passés encore en Israël. Ils ont eu des problèmes à tel point qu'un des rois grecs a égorgé un cochon dans le temple. Donc les gens qui ont déjà entendu parler des Maccabées, ça relate cette histoire-là. C'est-à-dire que le roi Antiochus Épiphane, successeur d'Alexandre le Grand, un roi grec qui dominait la région, il était tellement jaloux du Dieu des Juifs qu'il a voulu donc par jalousie. Donc ça nous rappelle Satan, ça nous rappelle ce qu'Adam a voulu faire. C'est la même chose. Il est parti dans le temple, il a égorgé carrément un cochon. Et c'est là que la révolte des Maccabées a commencé. Et ils ont vaincu les Grecs. Une petite nation comme Israël a vaincu les Grecs, qui était l'empire mondial de l'époque. Ils les ont vaincus. Et pendant 150 ans, ils ont été souverains dans leur propre pays. C'est les Romains qui sont venus encore les soumettre. Donc à chaque fois, il faut dire aussi qu'à chaque fois qu'Israël péchait, puisque Dieu est juste, même si Israël était son peuple, à chaque fois qu'Israël s'éloignait de lui, Dieu suscitait des gens qui venaient punir Israël, qui venaient sanctionner Israël en dominant sur Israël. Ça prouve la vérité de Dieu, ça prouve l'équité de Dieu, la justice de Dieu. Et ça prouve qu'il est pur, qu'il est vraiment Dieu. Et les Romains sont venus encore dominer. On connaît les épisodes avec les Romains en l'an 70, avec, le Titus, le général Titus, qui a détruit Jérusalem. Et puis en 130 encore, les Juifs se sont rebellés. Entre-temps, les chrétiens étaient déjà là. Ils ont été aussi persécutés par Rome. Nous connaissons la fin de tout ça. La fin de tout ça, c'est que Rome elle-même s'est convertie à Jésus. Donc toutes les grandes puissances du monde entier ont été confrontés au peuple de Dieu, soit Israël, soit après l'Église. Parce que Dieu voulait parler au peuple, à travers son peuple, à lui aussi. C'est ainsi que Israël a été suscité pour confondre les faux dieux des peuples. Ensuite, ces dieux de peuple se sont déclinés en dieux producteurs. Il y avait le dieu, chaque peuple avait son dieu avec ses capacités. Il y avait le dieu qui était censé donner la fécondité, le dieu de la guerre, le dieu de la végétation, le dieu de la moisson. En réalité, l'homme, puisque vous savez, après la chute, l'homme est devenu limité. Être Dieu, c'était aussi celui qui était capable de donner la pluie, capable de donner le vent quand on en a besoin, capable de donner l'eau quand on en a besoin, capable de donner les enfants quand on en a besoin. Donc finalement, tous les besoins de l'homme sont devenus des noms de Dieu. Dieu de la moisson, Dieu de la pluie, Dieu du soleil. Tous les besoins de l'homme, tout ce que l'homme pouvait attendre pour vivre, pour être heureux, et c'est devenu des dieux. Donc ce n'est plus, ça n'a plus été que le dieu du peuple, mais ce dieu-là de toute une nation s'est décliné en plusieurs dieux. C'est pourquoi dans une nation, on pouvait trouver plusieurs dieux. Dans certaines nations, on pouvait trouver peut-être deux dieux seulement, mais avec des qualités qu'on donnait à l'un et à l'autre qui complétaient tous les besoins de l'homme. En Égypte, il y en avait beaucoup. Et partout ailleurs, il y en avait beaucoup. En Grèce, à Rome, il y en avait beaucoup. À Babylone, il y en avait beaucoup. Donc finalement, ces gens-là, ces dieux-là des peuples se sont déclinés en dieux des besoins de l'homme, en dieux de tout ce que l'homme pouvait trouver comme extraordinaire. Il y avait un dieu pour ça. La beauté, il y avait un dieu pour ça. Donc c'est ce qui s'est passé. Et le Seigneur n'a cessé d'utiliser Israël pour confondre tous ces dieux-là, tous ces petits dieux-là. Nous connaissons l'épisode d'Élie contre les prophètes de Baal et d'Astarté. Le défi, c'était quoi? Qui est celui qui va descendre le feu du ciel? Le défi, c'était quoi? Qui est celui qui va faire pleuvoir? Parce que le peuple d'Israël s'était attaché au Baal, Astarté, en se disant, c'est eux qui vont nous donner la pluie. Nous sommes attachés à l'Éternel. Et il ne nous donne pas la pluie, nous allons nous attacher à Baal et à Astarté. Et Élie a dit, non, c'est moi qui vais décider. Moi, le serviteur de l'Éternel, je décide que pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. On va savoir qui est le véritable Dieu. Et ça s'est passé comme Élie a dit. Et jusqu'au jour de la confrontation, il ne pleuvait pas encore. Mais quand il y a eu confrontation, Élie a battu les prophètes de Baal, parce que c'est le feu descendu du ciel à son ordre. Instants après, il a demandé à ce que la pluie tombe et la pluie est tombée. Il a prouvé par là qu'il était plus fort que les dieux, son dieu plutôt était plus fort que les dieux Baal et Astarté. Donc il y a eu plusieurs conflits comme ça où Dieu montrait que c'est lui le véritable Dieu, qu'il faut venir à lui le véritable Dieu, les autres, les statues, les dieux avec des noms de pluie, des noms de soleil, des noms de tout ce qu'on veut, sont des faux dieux. Et l'homme a fini par dessiner ces dieux-là, faire des statues de ces dieux-là. Il a dit, mais tout ça, c'est des faux dieux. C'est moi le véritable Dieu. Vous comprenez que le problème est un vieux problème. Aujourd'hui, quand nous attaquons nous-mêmes en disant que nous avons fait de nous-mêmes des dieux, c'est un vieux problème, l'histoire de devenir Dieu. C'est le problème du début. C'est ce qui explique dans beaucoup de gens qui parlent le langage « je ». En réalité, c'est le même problème qu'Adam a eu de vouloir se gérer lui-même, d'être son chef. Et voilà comment ça s'est décliné. En peuple, ensuite en Dieu des besoins et Dieu de l'extraordinaire. Voilà comment ça s'est décliné. Mais Dieu n'a sans cesse arrêté d'interpeller les hommes en confrontant ces dieux-là à travers ses serviteurs et à travers son peuple. C'est ce qu'il a sans cesse continué à faire. Et c'est ainsi que nous avons cet épisode-là aussi des amis de Daniel face à la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont
refusaient de se prosterner devant cette statue parce qu'ils avaient le véritable Dieu. Donc Dieu a toujours utilisé Israël pour résister à ces faux dieux-là, créer des conflits dans lesquels lui va manifester sa victoire, sa puissance, sa véritable identité de seul Dieu. Il est considéré, et c'est ce qui était vrai, comme des faux. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Dans d'autres pays, ça a été des ancêtres qui étaient considérés comme des dieux, et ainsi de suite. Donc l'homme a cherché toujours fondamentalement à remplacer le Dieu invisible par quelque chose de visible, qu'il voit, qu'il maîtrise, en appelant la chose visible Dieu. Et on voit l'exemple le plus grave dans Exode, quand le peuple d'Israël lui-même se fait un veau d'or, en disant « c'est ça mon Dieu ». Parce qu'il a voulu imiter ce qu'il voyait ailleurs. Et nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 44 pour entendre ce que Dieu dit de ces gens-là, de ces faux dieux-là. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Voilà la définition de Dieu. Éternel. C'est très important. Pourquoi il s'appelle Éternel? Quand Moïse a demandé quel est ton nom, il a dit « Je suis celui qui suis. » Éternel. Parce qu'il va montrer que les autres ne sont pas éternels. Il va montrer que lui seul est le Tout-Puissant. Après, Dieu a manifesté qui il était par d'autres noms. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El Elyon, le Très-Haut. Tout ça, c'est des qualités qu'il donne et que lui seul a. Et ça fait la différence. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ensuite, une autre définition de Dieu, roi d'Israël. Israël et Dieu, c'est lié. De quel Dieu nous parlons? C'est le Dieu d'Israël. On ne parle pas de dans le vide. On parle du Dieu d'Israël. C'est ce Dieu-là tout-puissant qui a fait les cieux et la terre, qui est passé par Israël pour confondre les autres peuples, pour montrer que lui seul était Dieu. Et ensuite, qui s'est révélé en nous par son Fils, Jésus-Christ. Nous lisons, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Voilà encore un autre titre. Je suis le premier et je suis le dernier. C'est lui qui contrôle tout. Il dit, mais c'est moi qui contrôle tout. Premier et dernier. Bien aimé, ça fait du bien de savoir que ton Dieu est le premier et le dernier. Il contrôle tout. Le début, la fin. Tout est sous contrôle. C'est agréable. Je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, mais ces gens-là, quand ils créent des dieux, ces statues-là ne voient pas. Ces statues-là n'entendent pas, ne parlent pas. Ainsi, celui qui appelle cette statue-là Dieu est lui-même dans la confusion. Comment il peut appeler quelque chose Dieu alors qu'il n'entend pas, il ne voit pas? Donc celui qui le fait est lui-même dans la conclusion. Tu vas mettre une petite statuette en disant que c'est Marie au chevet de ton lit, disant que ça va te protéger. Mais non, comment lui ne voit pas, la statue ne voit pas comment ça va te protéger. Mets de l'argent là-bas, informe les braqueurs, ils vont venir, la statue ne va même pas voir, alors qu'ils vont faire du bruit. Hein. Dieu dit, mais le fait d'appeler ces choses-là Dieu, ça met les gens qui les appellent dans la confusion parce que le raisonnement simple suffit à montrer que ce n'est pas de Dieu parce que ça ne voit pas, ça n'entend pas du tout. Verset 9, verset 10. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole, donc en métal, pour n'en retirer aucune utilité? Donc on fabrique ces choses-là, mais ces choses-là ne peuvent rien faire. Elles sont là figées. Elles ne bougent pas. En réalité, qui est-ce qui est derrière ces statues-là? C'est des démons. Nous avons vu que Satan a essayé d'être Dieu lui aussi, de prendre la place de Dieu. Ayant échoué, il s'est mis en complicité avec l'homme pour créer tous ces dieux-là qu'on connaît là. Maintenant, quand un humain prie une statue, en réalité, il prie un démon qui est en complicité avec l'homme qui a fait la statue. Et ce démon-là peut agir d'une manière ou d'une autre, mais son action n'est que pourriture. Ça ressemble à du gâteau empoisonné. Ça va te donner du bien au début, mais après ça te tue. C'est ça l'action de ces faux esprits et ces mauvais esprits qui passent à travers ces statues-là. Verset 11. Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Écoutez maintenant comment Dieu explique. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il dit que c'est le forgeron qui fait la hache, qui fait tout ça, les instruments. Mais le forgeron lui-même, il dépend de la nourriture que Dieu peut lui donner. Il dépend de l'eau que Dieu peut donner. En réalité, le forgeron lui-même est faible parce que sans nourriture, il ne peut plus continuer à travailler. Sans eau, il ne peut plus continuer à travailler. Donc, il dépend de l'extérieur, le forgeron. Donc, ce n'est pas Dieu. Puisque Dieu ne dépend de personne. Il est souverain. C'est ça une des définitions de Dieu. Verset 13. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore, il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Haha, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon dieu. » Alors, c'est ce que Dieu ne comprend pas. Il dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, verset 18. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît des cendres, son cœur s'abusait l'égard, et il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Oui, n'est-ce pas du mensonge? Parce qu'il y a un morceau de bois. Tu coupes la moitié, avec la moitié tu chauffes, tu te chauffes, tu fais cuire le pain, et avec l'autre moitié tu dessines, tu sculptes un être et que tu appelles ton Dieu. Dieu dit, mais comment ils n'ont pas d'intelligence pour se rendre compte que c'est le même bois qu'il a utilisé pour se chauffer, pour cuire le pain, et c'est ce même bois qui devient son Dieu. C'est évident, quoi. C'est évident que ce n'est pas normal. Donc, alors Dieu donne la raison qui fait que l'homme en arrive à là. Quelle est la raison? C'est dans le verset 18. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point.
Donc, les yeux, l'intelligence de ces gens a été, ont été fermés. Fermés. Pour qu'ils ne voient pas. Parce que ce n'est pas normal qu'avec le même morceau de bois, tu fais un tout petit peu, tu te chauffes, tu cuis le pain avec, et puis l'autre partie, tu te sculptes un dieu, un objet, et tu dis que c'est ton dieu. Il dit, mais non. Mais il ne pourrait pas tenir ça dans sa main et dire, ce n'est qu'un mensonge parce que c'est moi-même qui ai fabriqué ça. Comment je peux appeler ça Dieu alors que c'est moi qui ai fabriqué ça? Et Dieu, déjà, dès le départ, il a démontré que celui qui a fabriqué, non plus Dieu, parce que quand il a faim, il n'arrive plus à travailler. Quand il a soif, il n'arrive plus à travailler. Donc, il a besoin de l'eau et de la nourriture extérieure. Donc, ni lui qui a fabriqué la statue, ni la statue ne sont Dieu, parce que cette statue a été fabriquée de la même matière qui sert à chauffer, qui sert à cuire le pain. Mais malheureusement, bien-aimé, pendant des années, des siècles, les humains ont adoré ce genre de choses. Et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent avec des crucifix, avec des statuettes de Marie, avec des statuettes de Bouddha. Un Bouddha qui est avec un gros ventre. Mais on trouve ça quand même, on l'appelle Bouddha débonnaire. Donc un Bouddha assis avec un gros ventre, comment il va te protéger? Donc, bien aimé, déjà il est gros comme ça. Mais les humains, jusqu'aujourd'hui, continuent. Ils ne peuvent pas se dire, mais tiens, mais ça, je peux prendre ça et casser, ça va se casser, ça ne va pas réagir, ce n'est pas un dieu. L'explication est simple, leurs yeux sont aveuglés. Pourquoi leurs yeux sont aveuglés? Parce qu'ils ne veulent pas croire au véritable Dieu. Quand tu refuses de croire au véritable Dieu, l'aveuglement te frappe. Et tu crois maintenant facilement au mensonge. Tout ça est écrit, hein, ce que je vous dis dans 2 Thessaloniciens 2:9. C'est écrit que ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, ils ont reçu une puissance d'égarement. C'est écrit. Leur intelligence a été aveuglée. Ce que nous trouvons évident, pour eux, ce n'est pas évident. Ils pensent qu'une statue peut vraiment faire quelque chose pour eux. Dieu dit, mais ce n'est pas des dieux, c'est des objets. Et même les esprits qui sont derrière, ça sont des esprits qui ont été vaincus. Ils ne peuvent produire que la destruction, que le mal. Parce que s'ils étaient de bons esprits, ils me présenteraient à ces gens-là pour dire qu'il y a un véritable Dieu. C'est le seul qui existe, celui qui s'appelle l'Éternel. Lui seul est éternel. Lui seul est tout puissant. Il a dit, je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Voilà les qualités qu'il cite pour dire, je suis différent de ces gens-là. Je suis l'éternel des armées. C'est moi qui commande toutes les armées de la terre. Les armées, dans les armées, il y a aussi les étoiles. Il y a tout ce qui est impressionnant et puissant. Dieu est plus grand que tout cela. C'est ce qu'on appelle les armées de l'univers. C'est moi qui commande tout ça. Je suis l'Éternel. Alors, bien-aimés, malheureusement, les humains ont cru à ces choses-là. Et ils ont appelé ça le dieu Mars, dieu de la guerre, Aphrodite, le dieu de l'amour, je ne sais pas, j'ai oublié les autres, les autres affectations des faux dieux grecs ou romains. Et aujourd'hui, ça continue encore. Au Brésil, il y a ce qu'on appelle les saints païens. Donc, un grand musicien qui meurt, on en fait un saint qu'on peut prier. Donc, tout ça, Dieu dit, mais c'est des idoles, ce sont des faux dieux. Ça n'a aucun impact. Sinon, un impact négatif. Parce que c'est des esprits traîtres qui finissent par trahir les humains et leur faire du mal. Nous continuerons la liste des faux dieux. Nous voulons nous arrêter à ce qui est statue, ce qui est religion, ce qui est dieu de peuple. Aujourd'hui, on s'arrête sur ces dieux de peuple. C'est ça l'origine. D'abord Dieu. Satan et l'homme se rebellent contre Dieu. Dieu triomphe d'eux, il les chasse. Et Satan, dans sa rébellion,
Il a fait un peuple d'anges pour contrer Dieu, ça n'a pas marché. C'est écrit dans Apocalypse 12, cet exemple-là. Et l'homme aussi, dans sa rébellion, il se fait un peuple pour contrer Dieu. Parce que dans le nombre, il pense contrer Dieu. Là encore, il est confondu à la tour de Babel. Et ça a créé plusieurs peuples. Et les démons et ces peuples-là se sont créés des dieux. Des dieux de peuple. Ensuite, ces dieux de peuple se sont déclinés en dieux d'extraordinaire et de besoin de l'homme. Tu vas avoir un enfant, tu vas faire un sacrifice dans des tombeaux des ancêtres, près des tombeaux des ancêtres, devant les tombeaux des ancêtres. Il y a même au Cameroun une tribu qui a une case réservée au crâne de ceux qui sont morts. Normalement, les crânes sont là pour leur prouver qu'ils sont morts, ils ne sont rien du tout. Mais au contraire, l'homme vient adorer ces crânes-là. Alors que les crânes en eux-mêmes sont la preuve qu'ils sont perdus, ils sont morts. C'est étonnant comment l'intelligence peut être aussi tuée, aussi fermée. Tout ça à cause du refus qui est dans le fond de l'homme. C'est-à-dire l'homme a un problème. C'est le problème d'Adam. Il n'accepte pas que Dieu seul soit Dieu. Lui aussi, il veut l'être. C'est ce problème-là qui a conduit tout ce qu'on est en train de dire là. Peu d'hommes disent, bon, je suis petit, il n'y a que Dieu, moi j'accepte mon rôle de domestique, j'accepte mon rôle de sireur. Non. Pourquoi lui seul? Pourquoi pas moi? On ne le dit pas comme ça, mais notre comportement le montre. Et finalement, Dieu a suscité Israël pour confondre les dieux des peuples et tous les petits faux dieux qu'ils ont, qui se sont créés. Dieu de ceci, Dieu de cela, Israël est venu confondre ça, tout ça. Vous vous souvenez de l'épisode où ils ont pris l'arche de l'Alliance, hein? Ils ont pris l'arche de l'Alliance. Il y a un peuple qui a pris l'arche de l'Alliance, les Philistins. Ils ont mis ça dans le même local que leur dieu qu'ils appellent Dagon, leur faux dieu. Ils ont mis l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de l'Éternel au milieu des Juifs. Ils ont mis ça dans le même local que leur dieu. Mais le lendemain, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils trouvent? La statue de leur faux dieu tombée par terre, la face sur la terre. Chaos. Après, ils ont commencé à avoir des hémorroïdes. Ils ont dit, là, il y a quelqu'un qui est plus fort que notre faux dieu Dagon. Allez, nous allons rendre l'arche de l'Alliance aux enfants d'Israël. Et qui a récupéré, il y a un monsieur qui a récupéré ça ensuite, à Obed-Edom, il a récupéré ça ensuite, David est parti récupérer l'arche. David, c'est lui l'adorateur du véritable Dieu. Il est parti récupérer l'arche de l'Alliance. Nous allons clôturer cette séance d'aujourd'hui avec 1 Chronique 16, qui nous montre David qui récupère l'arche qui représentait la présence de Dieu et il fait adorer tout le peuple. 1 Chronique 16. David a récupéré l'arche de l'Alliance. Aujourd'hui, redonnons à Dieu sa place et disons-lui qu'il est Dieu et qu'il peut nous gérer de A à Z. Nous lui appartenons. Comme David, qui était roi, a dansé presque nu pour dire que ce n'est pas lui qui était roi en réalité, c'est l'Éternel qui était Dieu. 1 Chronique, chapitre 16. À partir du verset premier. Après, on pourra toujours sauter, mais on commence le verset premier. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente de David, que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Amen. David récupère l'arche, il la remet à la place d'honneur. Et il est tellement dans la joie que son Dieu soit revenu à la place d'honneur et qu'il distribue la nourriture aux gens. Afin qu'ensemble, ils célèbrent l'Éternel. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. c'était Asaph, le chef. Zacharie, le second, après lui, ainsi de suite. Au verset 7, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. » Verset 8, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. » Ah oui, c'est ça notre travail, de dire qu'il y a un seul Dieu, le Dieu d'Israël, le Père de Jésus, le faire connaître parmi le peuple. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Si tu cherches Dieu, réjouis-toi parce qu'il est là. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu ». Ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux de peuple sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. » Voilà, tous ces gens-là, c'est des idoles, parce que, alors que Dieu lui a fait tout le reste, tout ce qui existe. « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille de peuple, rendez à l'Éternel. » Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Amen. Nous allons chanter l'Éternel règne. Il est majestueux. Aujourd'hui, bien-aimé, remets Dieu à sa place. Toi, tu es le serviteur, Dieu est le maître. Dieu est le Tout-Puissant. Devant Dieu, on s'incline. Ce sont ses projets qui comptent. Ce ne sont pas nos imaginations. On peut avoir beaucoup de projets, comme il est écrit. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc autant chercher quels sont les desseins de l'Éternel. C'est comme ça que nous manifestons qu'il est Dieu. L'Éternel règne, bien-aimé. Et si nous voulons qu'il règne dans nos vies, capitulons, ne résistons pas à sa voix, à la voix de sa parole. Acceptons que notre avenir est entre ses mains. Ne cherchons pas à diriger notre avenir. Disons à Dieu, mon avenir c'est entre tes mains. L'Éternel.
L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps,
Dieu est puissant,
Dieu est puissant, dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, la sainteté convient à sa maison. maison pour la durée des temps. Pour la durée des temps.
L'Éternel, puissance et force.
Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur. Rendez-lui gloire.
Amen.
Pour la durée des temps. Pour la durée des temps.
Pour la durée des temps.
Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Pour la durée des temps. Nous t'exaltons. Tu es grand et digne de louange, Éternel. Tu as fait les cieux.
Amen. L'Éternel règne.
L'Éternel règne. Il est majestueux. Il est saint de force, l'Éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps. Pour la durée des temps.
Puissance et force.
Puissance et force. Dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des
la durée des temps.
Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange, Éternel. Tu as fait les cieux. Amen.
Amen. Gloire à toi, Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est toi le véritable Dieu. Ce ne sont pas les idoles, ce ne sont pas les humains, car tout cela échoue et de passage. Toi, tu es l'Éternel, le premier et le dernier, celui qui maîtrise le temps et les circonstances. Alors que le temps a tué des empires, le temps a tué des humains, le temps a tué les modes, le temps a tué les stars, mais le temps est sous ton contrôle à toi, Éternel. Que ton nom soit élevé. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à te laisser régner dans nos vies, à ne pas nous inquiéter, à dire que tu es notre Dieu, à dire comme David, annoncer à tous les peuples que l'Éternel règne.
Amen.
Que tout est sous contrôle. Comme tu as dit à Isaïe, tu as prédit des choses et ces choses s'accomplissent. Qui peut faire autant? Et nous savons que ton retour est proche. Et nous voulons déjà, au milieu de nous, que tu règnes. Que dans nos vies, tu récupères la première place. Que nous cessons de trop raisonner, mais que nous te laissons régner. Que nous te donnons le contrôle de tout. Que nous te confions les sujets qui nous dérangent. Car tu règnes et tu gères tout. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le véritable Dieu, le roi de gloire. À toi la louange au siècle des siècles. Amen.